Ding dong. Ding dong.
La bande passante.
La bande passante. Nicolas Benita, Alain Pilot.
C'est une franco-vietnamienne, auteure-compositrice faite de choc, normal pour cette fille de parents au tempérament de feu, quelqu'un de bien même si elle en a pas l'air, belle telle une déité, de nature guerrière, dessine, aime l'univers du manga, a grandi avec ça et particulièrement inspirée par Gali, la petite androïde robot, et qui rêve un jour de maîtriser le Kamehameha. Kim Thuy Nguyen, aka Inaich, bonsoir, on tia croa.
Quelle présentation. Merci et bonsoir Alain.
Ravi de vous accueillir. Il est bien mon vietnamien.
Super.
Merci.
Je ne sais pas si c'est Eve qui t'a coaché.
C'est Eve Dubus qui m'a coaché, effectivement. Ravi de vous accueillir, non pas sur une radio grand public, comme vous le chantez, mais la radio au plus grand public qui soit, RFI. 20 secondes, c'est le titre de l'une de vos 12 nouvelles compositions, sorties de cet album qui s'appelle II3. Et c'est aussi le temps dont vous disposez maintenant pour nous dire pourquoi vous êtes quelqu'un de bien.
Parce que je suis faite de beaucoup de mélanges, de joie, de peine, parce que j'ai fait cet album et qu'il faut l'écouter.
Ça fait 15 secondes, bravo. Nous allons tenter de vous connaître sur le bout des doigts avec vos silences, votre chair, votre sang, en un peu plus de 20 secondes, sans argent, avant la fin du monde. Et puis nous vous emmènerons à Montréal, où se déroule Nuit d'Afrique, l'un des plus beaux festivals de musique du monde, au monde. Bruno Lorenzi est sur place pour la bande. Enfin, adulé par beaucoup, décrié par d'autres, un artiste jusqu'au bout des ongles, qui en tout cas ne laisse pas indifférent, Glenn Gould et particulièrement Gilles Ben Simon. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique maléfique, bénéfique et franco-asiatique à tous les étages.
Lève-toi, Inaich, c'est le titre qui ouvre cette bande, qui vous est en partie dédiée et qui ouvre également cet album, le troisième, sans concession, qui a un goût de rage, d'urgence, mais d'optimisme aussi. En quoi l'écriture comme le dessin sont des combats pour vous ?
Eh bien, c'est à travers ces outils-là que j'arrive à me trouver et à savoir à poser sur papier ou sur bande ce que je suis, ce que... Voilà ce que, de quoi je suis faite. C'est une façon de m'exprimer. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je le fais sans concession, comme j'écris ou je dessine dans un état de transe à chaque fois. Et je ne me pose pas de barrières, de frontières. Je ne travaille pas avec des concepts. Je me lâche, comme sur un journal intime où on peut dire exactement voilà ce qu'on veut, parce que c'est intime. Et voilà, ensuite, je le partage. Et on aime ou n'aime pas, mais au moins, c'est moi.
On aime, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Qui est la II Army ?
Alors, la II Army, c'est... elle est faite de gens formidables, des gens qui nous soutiennent. On a eu cette idée à la sortie de II3 avec Brad, donc Thomas Saclay, notre guitariste et réalisateur. Et avec Aurélien Claire, on a eu l'idée de monter cette II Army pour nous entourer de tout l'amour des gens qui aiment Ina Hitch, qui nous soutiennent. Et voilà, c'est important quand on est en indé d'avoir ce type de soutien, de renfort, parce que ça nous permet de pas être seul et de voir que tout le fruit de notre travail sert à quelque chose et que voilà qu'il est véhiculé aussi. C'est très important. Donc on a créé cette II Army et beaucoup de gens ont répondu à l'appel.
Lorsque vous êtes lancé dans le domaine artistique et la musique particulièrement, quel chemin aviez-vous envie de prendre ?
J'avais pas d'idée précise. J'avais des sensations. Quand j'ai décidé de faire de la musique, c'est surtout parce que quand je suis rentrée au lycée, voilà, je me rappellerai toujours ce moment à la rentrée où je redécouvre mes amis que j'avais laissés au collège 2 mois avant. On jouait encore comme des gamins, on se courait après dans les couloirs en troisième, quatrième, en troisième. Et donc, on se retrouve en seconde. Et là, tout d'un coup, je retrouve des gens qui font semblant d'être des adultes. Entrés en seconde, qui fument, qui ont le journal à la main, qui vont boire des cafés et qui ne... On peut plus parler comme il y a 2 mois. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Et puis de fil en aiguille, en suivant les cours, en faisant cette année de seconde, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la vie, c'est pas ça. C'est pas ça, je n'arrive pas à rentrer dans ce cadre-là. Et j'avais heureusement la musique à côté. Et notamment, c'était le classique à l'époque. Je ne faisais que du classique.
Nous en reparlerons.
Voilà, c'était un bel échappatoire pour moi. C'est dans cette direction que je vais aller.
Lui fait partie de celles et ceux qui vous ont mis sur, peut-être, le droit chemin. Pianiste natif de Tel Aviv et génie du jazz, selon les spécialistes Yaron Herman. De quelle manière va-t-il intervenir au début de votre parcours, Ina Hitch ?
Eh bien, au départ, je suis accordeuse de piano. Et j'ai eu l'occasion d'accorder son piano à plusieurs reprises. Et c'est à ces occasions-là qu'on est devenus amis, qu'on a échangé sur la musique. Et au départ, je n'étais qu'accordeuse de piano. Et d'accord en accord, il m'a demandé ce que je faisais à côté. Et j'ai dit, écoute, je fais aussi de la musique, mais... avec beaucoup d'humilité, parce que face à ce monstre du jazz, je me suis dit, tu es toute petite. Et je n'osais pas vraiment lui parler de ma musique, de mes maquettes. C'était encore au stade de maquette à l'époque. Et un jour, il m'a dit, écoute, file-moi tes maquettes. Ce que j'ai donc fait, il m'a tout de suite appelé en me disant, mais c'est génial ce que tu fais. Je connais un ami qui est producteur, je suis sûre que ça va lui plaire. Une semaine après, c'était réglé. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans le milieu, grâce à Yaron Herman.
Eux aussi font partie de votre chemin. Et vous me dites ?
Chaka-Ponga.
Exactement. When I Get Free, le II Group a eu la chance, écrivez-vous sur votre page, d'assurer les premières parties de Chaka-Ponga. Pourquoi la chance?
Parce que c'est une expérience vraiment unique. Pouvoir jouer devant autant de gens, un public de, aussi... comment dire, un public aussi, aussi gigantesque. Quoi. Ils sont des fans de Chaka-Ponga, mais ils sont investis. Ils sont voilà, c'était une chance parce que la scène, les scènes de Zénith sont aussi, voilà, ne sont pas données à tous les musiciens, à tous les artistes. Donc, de pouvoir expérimenter ça dans un cadre pareil et surtout dans un esprit pareil, c'est vraiment unique. Les Chaka-Ponga sont vraiment des gens... Tous les membres du groupe et du staff sont uniques. Quoi. Ils sont des gens vraiment formidables et très humbles.
À vos côtés, Brad Thomas à clé, vous en parliez tout à l'heure, bassiste, guitariste de ce chanteur, représenté non pas par la 9e, mais par la 13e lettre de l'alphabet. M comme Mojo, M comme Mathieu Chédid, à l'instar de Chaka-Ponga, remercié dans votre livret. M dont le bassiste, guitariste et réalisateur est donc Brad Thomas Hackley. Que vous a apporté Brad?
Une fraîcheur énorme, un regard très efficace sur la manière de monter mes morceaux et un esprit très positif. C'est une personne vraiment très généreuse et très... comment dire, avec un esprit très, très sain. Et dans le milieu, c'est...
c'est pas évident.
C'est pas évident. Et voilà.
Quels sont les pianistes qui ont grâce à vos yeux?
Quel Jarrett. C'est ma première, on va dire mon premier trip. j'ai décollé avec The Cone Concert. Mais c'est à partir de là que je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de drogue quoi, dans la vie. C'est vraiment... J'ai fait mon premier voyage spirituel avec Kate Jarrett. Après Glenn Gould, après...
Justement, ça tombe très bien.
C'est vrai.
On va parler de Glenn Gould.
Ah, tiens.
Bonsoir Gilles Ben-Simon.
Bonsoir Alain.
La sonate en ré majeur de Joseph Haydn, un premier extrait du coffret, un véritable pavé sorti il y a peu chez Sony. Tu nous expliques, Gilles ?
Oui, je tenais à vous parler du coffret événement de ces dernières semaines pour tous les amoureux de piano classique. Pas tout à fait une intégrale, mais presque. Un artiste mondialement connu dont les disques défraient la chronique depuis longtemps, le pianiste canadien Glenn Gould. Glenn Gould qui nous quittait en octobre 82 à l'âge de 50 ans, adulé par beaucoup, décrié par d'autres. Un artiste jusqu'au bout des ongles qui en tout cas ne laisse pas d'indifférent.
À ce qu'on sait, une personnalité complexe.
Et c'est le moins qu'on puisse dire, Alain. En fait, on pourrait parler des heures de Glenn Gould, des livres entiers ont été écrits sur lui sans jamais véritablement percer sa personnalité. On peut tout de même évoquer un enfant surdoué, un musicien particulièrement exigeant qui cultivait une démarche très personnelle, du reste pas toujours facile à vivre pour les gens qui l'entouraient et travaillaient avec lui. On n'oublie pas non plus sa personnalité assez romanesque, un homme plutôt replié sur lui-même, littéralement absorbé dans la musique, comme le montrent des images nombreuses. Plus d'une fois, on y voit le pianiste emmitouflé dans écharpe, gants et casquettes, y compris en saison chaude, et puis surtout chantant en jouant souvent les jambes croisées, assis très bas au piano sur une simple chaise pliante, pour ainsi dire le nez sur le clavier. Ici ou là, au cours de ses interprétations, une main libre décrit volontiers des volutes dans l'air, sans doute une forme de prolongement extérieur des sons qu'il tire du piano, bref, il n'en fallait pas plus pour forger la légende Glenn Gould. Premier extrait de cette quasi-intégrale éditée chez Sony Music, le premier mouvement du concerto italien signé Jean-Sébastien Bach.
Thank you. Jean-Sébastien Bach ou Bach, selon les spécialistes, le concerto italien Glenn Gould au piano, un musicien inimitable qui irrite ou fascine.
Alors Glenn Gould est souvent associé à Bach, son compositeur de prédilection qui représente, il est vrai, une large part de son héritage discographique. Pourtant, on aurait tort de réduire Gould à Bach. Entre autres, Mozart, Haydn, Schumann, Brahms, Berg, Hindemith, Richard Strauss, Scriabine, Schoenberg ou encore ses propres transcriptions de Richard Wagner figurent à son répertoire et sont repris dans le coffret. Pour lui, l'essence de la musique réside dans le contrepoint, autrement dit dans la superposition des lignes mélodiques, un principe de composition qui est aussi un style d'écriture que Gould s'est toujours attaché à faire ressortir avec une grande précision dans ses interprétations.
Peut-être d'autres constantes de son jeu ?
Oui, un jeu tout à fait unique et parfaitement reconnaissable. Peu de legato, le legato qui est l'art de lier les sons, peu de pédales et donc beaucoup de clarté et d'articulation, des tempi qui ne traînent jamais et une dynamique évidente à laquelle il tenait beaucoup. Elle était probablement encore exacerbée par le réglage de son piano, toujours le même, le fameux Steinway CD318 réglé au millimètre. Il était très exigeant là-dessus. Gould avait aussi ses détracteurs, qu'il considérait comme un excentrique. Ils étaient peut-être confortés dans leur avis avec les positions très arrêtées du pianiste sur le concert et l'enregistrement. Dès 64, il renonce au concert qui ne le satisfait pas pour se consacrer au travail en studio qu'il envisage comme une véritable création. Acoustique, emplacement des micros, nombre de prises et montage des bandes, c'est avec un soin maniaque qu'il peaufine tous ses enregistrements. Si l'on demande à Glenn Gould quel est le but de l'art selon lui, voilà sa réponse. L'objectif de l'art n'est pas le déclenchement d'une sécrétion momentanée d'adrénaline, mais la construction sur la durée d'une vie, d'un état d'émerveillement et de sérénité. Pour revenir au coffret Sony, l'objet des plus tentants, il est superbe, 78 CD avec pochette originale, un livre de plus de 400 pages avec illustrations, 3 disques d'interviews et d'archives, sans oublier une mention spéciale pour la qualité du remastering. L'ensemble est également disponible en dématérialisé sous forme d'une clé USB. On termine avec un autre extrait, l'iconoclaste Glenn Gould dans un classique du classique, le chant profond du second mouvement de la sonate dite pathétique de Ludwig van Beethoven.
Merci Gilles Ben-Simon.
Merci Alain.
Beethoven, ici par Glenn Gould, l'un de vos pianistes favoris, Naïch. Quelle était l'idée en postant votre jeu de Bach sur votre page ? Très beau jeu d'ailleurs.
Bah, l'idée, en fait, c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'idée. J'étais là, dans la Drôme chez mes beaux-parents, 2-3 jours, il y avait un piano. Et j'essayais de reprendre mes vieux restes et ça m'a fait rire d'écorcher Bach comme ça sur une petite vidéo.
À vous l'écorcher ?
Là, j'avais écorché, oui. Ce sont mes vieux restes. Hein.
Vous dites Bach ou Bar, vous ?
Ça dépend de...
Ça dépend des soirées.
Voilà, exactement.
C'est un peu comme moi. Quand je suis à la radio, je dis Bar. À suivre, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes, Inaïch, son cœur en miettes, son grand jeu et les balatous des Nuits d'Afrique de Montréal, sur place, Bruno Lorenzi. À tout de suite sur RFI, dans la bande passante.
La bande passante.
Musique.
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 Alain Pilot.
Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de cette chanteuse claviériste passée par le conservatoire, autant inspirée par Frédéric Chopin, Trent Reznor, Björk, Jean-Sébastien Bach ou par Rage Against the Machine, interprète du Noir Désir avec Aston Villa, ne se dégonfle jamais, même pour une reprise de Nirvana au pied levé. Une artiste qui écrit ce qu'elle vit, car l'important c'est le contenu de la chanson. Ses mots sont en français, non pas par choix, mais naturellement parce que c'est la langue avec laquelle elle pense, elle rit, elle pleure et elle aime. Rebonsoir Inaïch.
Bonsoir Alain.
Sachant que chacun de vos titres est pour vous un bébé, comment avez-vous fait pour maman ?
Eh bien, je me suis mise à sa place.
Nous continuons d'évoquer votre troisième album, I3, auquel vous souhaitez la plus grande audience. Ça tombe bien ce soir avec RFI. Et puis les Nuits d'Afrique 2016 de Montréal, compte rendu de l'envoyé spécial de la bande Bruno Lorenzi. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique apocalyptique à tous les étages.
C'est le début d'une vie nouvelle. Viens, viens. N'importe rien que tes deux mains, courage et force, nos seuls besoins et tout l'amour que tu me portes. Viens, et ton amour. Viens. C'est
Itch, la fin du monde. Est-ce que c'est l'apocalypse qui fait saturer les sons à la fin du morceau ?
C'est tout à fait ça. C'est l'idée de l'apocalypse, imaginée par Marat Thomas Akles.
Oui, donc le fameux arrangeur, voilà, bassiste, guitariste, réalisateur. Ouais. À quelle époque avez-vous écrit ce texte ?
Eh bien, en 2012. Lorsque, voilà, il était prévu que nous disparaissions tous.
Selon
on ne sait plus d'ailleurs. Il y a eu tellement de fins, prédites que je ne sais plus. Mais on s'attendait à tous mourir. Donc,
En attendant la fin du monde, direction l'autre bout du monde, le Québec, est-ce que vous y êtes déjà allé ?
Jamais, mais j'espère bien y aller un jour.
Eh bien, jusqu'au 24 juillet, c'est la 30e édition de Nuit d'Afrique à Montréal, l'un des plus beaux festivals de musique du monde au monde. Allô Bruno ?
Salut Alain, bonsoir Enaïch.
Bonsoir.
Alors, bah oui, tout à fait. C'est Rachida, d'ailleurs, que tu as rencontré le 14 juillet dernier à Québec, qui a eu l'honneur d'ouvrir mardi, la semaine dernière, cette 30e édition. Une 30e qui fait une large place à la relève avec un R majuscule, c'est-à-dire des jeunes talents québécois, espoir de la musique du monde. Alors, bien sûr, beaucoup d'artistes venus d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine, des Caraïbes, de l'île Maurice, d'Europe, comme par exemple Yael Naïm, qui s'est produite lundi. Et puis, à Nuit d'Afrique, on célèbre aussi Manu Dibango, le père de la musique du monde, à qui le festival a remis pour la première fois le prix Nuit d'Afrique pour la francophonie. Alors déjà une semaine que la grande fête de la musique du monde bat son plein devant un public très nombreux et heureux. Et hier soir, le berceau du festival, le Club Balatou, a accueilli le Sénégalais d'Abitouré pour un magnifique concert intimiste. Je lui ai demandé ses impressions de retrouver un petit bout d'Afrique ici à Montréal.
Ça fait du grand bien de retrouver l'arbre sous lequel je me suis assis quand j'étais petit, de trouver une petite partie de cet arbre-là avec Touré et de tous ces gens qui sont là, qui organisent ce festival depuis bien 30 ans.
En tant qu'Africain, vous en connaissez plein des festivals, vous en faites plein dans le monde entier. Et celui-ci, précisément, Nuit d'Afrique, qu'est-ce qu'il représente pour vous sur la scène internationale ?
Je trouve que ça a une, elle a une particularité que beaucoup d'autres festivals n'ont pas. Parce qu'hier, il y avait, par exemple, hier soir ou avant-hier soir, je crois que j'avais été voir Manu Dubango, qui parraine cette année La Relève. Donc il y a en dessous et derrière tout ce que vous voyez des spectacles, il y a, on va dire, des monuments qui viennent et qui appuient certaines parties du festival et qui poussent. Donc ce festival-là, il est vraiment... Il peut être nostalgique, il peut rappeler beaucoup l'Afrique dans un domaine, mais il rappelle aussi l'Afrique moderne beaucoup. Parce qu'elle ouvre aussi bien aux jeunes artistes africains, mais aussi bien aux anciens qui étaient là, qui en plus continuent de pousser les jeunes. Et je trouve qu'il y a toute une construction autour de ça. Et puis, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup d'Africains à Montréal en réalité. Il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, il y a des Béninois, mais je rencontre tous les jours toutes les nationalités, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans la rue, que ce soit ici même au festival. Je pense que ce festival joue un rôle en ce sens assez important.
Dabi Touré à Québec, il était également à nos côtés. On l'aime vraiment. Bruno, ce festival Nuit d'Afrique qui fête cette année ses 30 ans a été créé par Lamine Touré, un Guinéen qui vit à Montréal depuis plus de 40 ans.
Oui, c'est ça. Il avait tout d'abord créé le Café Créole en 1976 et puis ce fameux club Balatou en 1985 qui devint donc, dès l'année suivante, le support du premier festival des Nuits d'Afrique de Montréal.
Quand j'ai arrivé à Montréal, j'ai trouvé quand même qu'il manque beaucoup de choses côté culturel parce que de ça, des fois tu parles, j'étais une fois à la télé, on parlait de à la télé où ça trouve Côte d'Ivoire. Les gens, ils répondent en Italie. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je pense qu'il y a un travail à faire ici. Ce travail-là, il faut être comme guerrier pour faire ce travail-là. Alors, depuis là, ce jour-là, j'ai mis dans ma tête, il faut qu'on crée quelque chose qui peut faire connaître la culture africaine au Canada.
Vous avez vu grandir cette communauté africaine ici à Montréal et vous êtes même au cœur de tout ça, elle a bien grandi en 30 ans.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés en ce temps, ils ont 30 ans aujourd'hui, même il y en a un qui me dit ça hier. Son papa et sa maman, ils se sont rencontrés au Balatou. Alors, il me dit, il a le même âge que Nuit d'Afrique. J'ai dit, mais bravo, donc ça c'est bien, un jour on va fêter ça ensemble. Il me dit, oui. Bon, par exemple, côté immigration, tout le monde a commencé au Balatou ici. Parce que nouveau arrivant, tout le monde y vient Balatou.
Ça veut dire quoi Balatou?
Bal pour tout le monde, bal à tous.
Du club Balatou, dans le cadre de ce 30e anniversaire, ce sera Ilham, un jeune Sénégalais qui habite depuis peu à Montréal et tout fraîchement sacré Révélation 2016-2017 de Radio-Canada dans la catégorie Musique du Monde, une distinction qui a beaucoup de valeur ici au Québec. Ilham, très fier de se produire au Balatou ce soir.
Balatou, tu sais, ici c'est comme la maison, c'est comme chez nous, c'est comme vraiment retourner en Afrique, tu vois, mais différemment. Donc Balatou, c'est un monument, c'est une institution, comme je dis, musique africaine ici. Donc c'est toujours ça me fait plaisir, moi, un jeune Sénégalais qui vient d'arriver et que ça fait juste 2 ans que je suis là, et que le fait qu'il me choisisse pour que je joue dans ce festival-là, vraiment, c'est un plaisir pour moi.
Merci Bruno.
Merci Alain.
Et merci à l'équipe du studio 89 de Radio-Canada à Montréal. Et Vitoli Bruno, après 22 heures sans dormir, pour se quitter, un extrait du concert de Nomadic Massive. C'était hier soir, ou plutôt cette nuit, sur la place des Arts de Montréal.
Propane, a brand new means, a thin cuisine. Done did it, let's believe it. Walk the market, Joe. After it said, we'll knock your eye at the
socket. You can get sick with this. Okay, I'll live ridiculous. We're bringing you ridiculous. Drop the beat, kill it quick. Fickle shit, the penis miss. Tell you this one time, you split banana like a football game. Run game, crush it.
Les MC qui bénissent le mal, qui guérissent le mal. Un échange physique, tennis de table. Yo, beat son lala. Fiche ton, c'est beat si lala. Fiche ton, hala.
It's a high grade sky, screaming at the dude.
Chomp up.
Let the heavy on your ear with a massive boom.
I'm
gonna
say we'll put a
jamais tantôt. On dit ça au couvent, son machin va guette un zéro. Tu dois content qu'il faut en dépanner, c'est pas fou. C'est fou, on y faut, tant qu'on déploie.
We gotta go, oh,
yeah.
Les Québécois de Nomadique Massive, enregistrés hier soir à la scène Loto Québec, au quartier des spectacles au village des Nuits d'Afrique à Montréal, que nous venons de vivre en partie grâce à Bruno Lorenzi, l'envoyé spécial pour la bande au Québec. Est-ce que vous êtes sensible au hip-hop, Ina Hitch?
Ah oui, j'adore le groove, là ça me groove particulièrement bien. J'adore le hip-hop, j'ai grandi avec ça. Et non, c'est une musique qui m'inspire énormément. Le rythme, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi.
Alors, hip-hop qui viendrait effectivement d'Afrique, ouais. Et les musiques africaines également, vous y êtes sensible?
Oui, c'est la base. Le rythme, c'est la base pour moi. Parce que même un silence, c'est contenu entre deux pulsations. Même un long silence, c'est du rythme. Et voilà, et chaque, comment dire, le cœur, c'est le rythme aussi quand on compose, quand on... c'est la pulsation du cœur. Voilà, et donc le rythme, c'est essentiel.
Vous parliez de silence.
Dans tes silences, papa, hurle-moi, l'univers.
ce n'est plus la même Ina Hitch que l'on a eu l'occasion d'entendre depuis le début de cette émission. Et si le tempo a ralenti, la rage est toujours là. Ina Hitch, avec tes silences, le mutisme est souvent effectivement anxiogène dans une relation amoureuse. Question récurrente, vous en parliez juste avant ce morceau, mais pour beaucoup de vos pairs qui y font allusion, je pose toujours cette question. Intérêt du silence en musique?
L'intérêt du silence, c'est pour reprendre son souffle et... et puis pour permettre à voilà au cœur de récupérer, pour permettre à l'esprit de se poser pour bien partir.
Je vous sens ému là.
Oui, tout à fait.
J'ai cherché à être n'importe qui, dit le morceau Ma chair et mon sang. Qui est Ina Hitch aujourd'hui?
Je ne sais toujours pas. Si je savais, j'arrêterais d'écrire. Je ne sais pas. Je pense qu'on passe une vie à se chercher. Et je ne sais pas si on se trouve à la fin, mais c'est cette quête qui est intéressante. Et voilà, c'est d'expérience en expérience. On sait ce qui n'est pas soi. Mais ce qui est soi, c'est difficile de savoir.
Je le disais dans l'entrée, une maman et un papa au tempérament de feu, arrivés en France suite à la guerre du Vietnam, ça se traduisait comment, ces caractères, par exemple?
Musicalement, déjà, à la maison, c'était n'importe quoi, mais j'adore, c'était vraiment la folie. À la maison, mon père, c'était un féru de toute la musique occidentale. Il aimait à découvrir tout ce qui se faisait de bien à l'époque. On passait de AC/DC à Van Halen, à Claude François, Edith Piaf, mais à fond. Je me rappelle de sa chaîne qui bichonnait à fond. On habitait en HLM. Et nous, on avait honte parce qu'il montait, il montait l'ampli à fond. Et puis ma mère à côté avec son opéra vietnamien traditionnel, qui est vraiment très particulier. C'est une musique très nasillarde, des chants très nasillards et très, très particulier. Mon père qui détestait ça, donc c'était la bataille voilà, de la musique occidentale avec l'opéra traditionnel. C'est même de l'opérette, on va dire, vietnamien. Et, déjà, grandir là-dedans, c'est... voilà, on n'en sort pas du tout indemne. Et voilà, ça se traduit par ça, de caractère très, très différent, mes parents, mais très, très riche.
Ça faisait comme ça? Étions là chez vous?
Ah, c'est énorme. Je suis chez moi là.
Alors, donc musicalement, il y avait les Beatles, il y avait Pink Floyd. Alors là, j'ai mal le prononcer, c'est Lee Kwaku.
Oui, voilà. C'est, je pourrais pas. Je connais pas. En fait, il y a sûrement d'autres artistes, voilà. Mais c'était tout à fait ce genre-là.
Théâtre chanté qui est né au sud du Vietnam, voilà. Donc voilà dans quoi vous avez baigné. Alors vous trouvez comment à ce moment-là entre Pink Floyd, l'opérette vietnamienne et Claude François et les Beatles, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
À ce moment-là, moi, à ce moment-là, je suis dans le classique total. Voilà. Et je baigne dans le classique. Hein. À ce moment-là, je suis dans mes gammes, dans mes. J'étais très assidue. Et il y avait ça. J'étais au centre de ça. Et j'ai dû, je pense, inconsciemment, emmagasiner tout ça pour plus tard. Mais c'était indéfinissable.
Alors vous faites du graphisme aussi, et le Figaro racontait l'histoire de la pochette d'Abbey Road, dont est extrait ce titre, Come Together, d'ailleurs c'est le titre qui ouvre l'album. Il y avait un touriste américain qui avait été photographié à son insu, et on le retrouve sur la pochette, il est sur le trottoir de droite, et il n'a jamais écouté l'album Abbey Road de sa vie, il est mort à 96 ans. Est-ce qu'une pochette c'est important pour vous ? Vous pouvez acheter un disque rien que pour la pochette ?
Oui, tout à fait, et puis d'ailleurs comme on parle là de ces ambiances-là, j'ai les pochettes d'albums dans ma tête, parce qu'à l'époque c'était les vinyles, mon père était un fou de vinyle, et c'est magique, j'ai l'ambiance, j'ai la musique dans ma tête et j'ai l'image de ces albums qui m'ont marqué. Je me rappelle de certains albums de Pink Floyd, petite ça me faisait peur, mais ça m'a marqué.
Comme ces deux personnages qui se serrent la main, voilà, et il y en a un qui est en feu par exemple.
Exactement, ça m'a énormément marqué.
Wish You Were Here.
Voilà, et il y avait cette espèce de ressenti par l'image qui te marque, et la musique derrière qui te mange, c'est très fort. Donc
alors hier, nous avons joué votre titre qui s'appelle Fais-nous un tube, où les directeurs artistiques deviennent des dictateurs artistiques. Elle n'est jamais soumise à quelques maisons de disques que ce soit. Voici un avant-goût de la programmation fraîche et inattendue de demain de Laurence Pierre. There are some people that have let the problems of today lead them to conclude that for them life is not the way. But every problem has an answer. If yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God.
I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
Le vent est froid, assis à l'arrière, le tenir serré, c'est ma mienne au chaud. Le vent est froid, assis à l'arrière,
la bande passante.
East St. Louis, Gospelettes, Have a Talk with God, Michael Kimwanuka, Black Man in a White World, Orchestre du Mont-Plaisant, Papa Maman, et Justice, à l'instant Safe and Sound, un aperçu de ce que vous entendrez ce vendredi dans la bande avec Laurence Pierre. Qui gardez-vous parmi ces quatre artistes ? Quatre artistes, non, quatre artistes, ça n'existe pas, Inaïch.
Justice, j'aime bien.
Justice, ah ouais, ok. Je rappelle le titre de votre album, II 3, II comme Ina Hitch, et 3 parce que vous êtes 3. Mais ces deux I seraient aussi pour dire que vous mettez les points sur les I et vous tenez droit comme un I, ou parce que vous êtes invincible pour voir l'infini, ou enfin incapable de se souvenir du temps magique des It Girls.
Bien, je vais prendre le tout.
Prenez le tout ?
Oui.
Ok.
Ça marche.
Je vous fais pour un bon prix. Merci infiniment, Ina Hitch.
Merci, Alain.
Come on, you. Fin de cette bande qui repasse demain en compagnie de la programmation fraîche et inattendue de Laurence Pierre. Merci à Eve Dubus et Pierre Vallée. Restez au moins 3 fois dans la bande en vous rendant tout de suite sur RFI.fr, RFIMusique.com ou les nouveaux médias, les réseaux sociaux. J'allais me coucher. Dans moins d'une minute, le journal. Salut à tous, à demain. L'épopée des